Merci Tiffaine, bon week-end. Deux invités, des sanglots, des plaintes, des fleuves, des bleus, des nymphes, un cerf et au moins une piéta avec le poète, traducteur et philosophe Martin Rueff et l'historien de l'art et philosophe Georges Didi Huberman.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h, Martin Rueff, Georges Didi Huberman, bonjour, bienvenue à tous
bonjour.
Les deux.
Bonjour.
Quelques figures, histoires, motifs ou intuitions sans doute hein, pourraient bien vous réunir l'un et l'autre. Et voilà une heure pour le vérifier. Je pense par exemple au philosophe Giorgio Agamben, que vous lisez beaucoup, Georges Didi Huberman, que vous traduisez. Martin Rueff, lui et bien d'autres, hein, il faudrait encore citer Italo Calvino ou Pavese, je pense à Pasolini aussi, à Benjamin, un peu à l'Italie, à la mobilisation de la littérature pour donner forme à la pensée. C'est d'ailleurs par le recours au poème ou à la nécessité du poème que vous concluez Ninfa Dolorosa, essai sur la mémoire d'un geste, qui paraît chez Gallimard, Georges Didi Huberman, un essai copieux qui fait comme enquête ou anthropologie des gestes de lamentation à partir d'une célèbre photographie de presse, prolongeant par là une réflexion entamée depuis un bon moment hein, maintenant sur l'image comme durée, notamment comme durée. Martin Rueff, vous signez quant à vous aux éditions Nous un recueil de poèmes noués par un troisième, le bien nommé La Jonction, qui donne son titre au livre et ça pourrait bien commencer par là.
It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green.
1971, vous étiez à peine né, Martin Rueff, la voix de Joni Mitchell pour commencer, The River, et ce n'est pas la seule voix qu'on entend dans votre recueil à forte bande son, hein, dirons-nous. Je dis ça commence par là, c'est-à-dire par le centre du livre, hein, ce poème, titré La Jonction. La Jonction, Essere due fuomi, hein, encadré par deux longs poèmes, Jonction qui est aussi un partage des eaux, hein, d'une certaine façon, un lieu, une géographie ou un événement géographique, en tout cas à Genève, où vous enseignez. Comment est-ce que vous décririez ce lieu d'écrire qui n'est pas tout à fait écrire hein ?
Oui, alors La Jonction, en effet, c'est un lieu à Genève hein, qui a ce nom, et où se rejoignent l'Arve et le Rhône, et ils vont chacun dans un sens différent. Les deux fleuves vont dans un sens différent. Ils ont deux couleurs différentes.
Nettement différentes,
oui, parce que l'un est plutôt vert émeraude, très, très pur, et l'autre est plutôt boueux, marron. Et donc, quand ils se rencontrent, on voit un peu comme dans une expérience de chimie, si vous voulez, ces deux bandes qui se rejoignent et qui versent l'une dans l'autre. Et le sous-titre, en effet, de ce cycle qui est au milieu du livre, c'est Essere due fiumi, et ça peut aussi établir un autre lien avec les réflexions de Georges Didi Huberman, puisque c'est un jeu sur un titre d'une œuvre de Pennone qui s'appelle Essere un fiume, être un fleuve, et en fait cette œuvre de Pennone présente deux pierres. Donc si vous voulez, c'est cette conversion que j'ai faite, et donc le poème se présente graphiquement, de fait, comme deux bandes. La section A et la section R. À gauche, la section A, c'est-à-dire la section Arve. Et à droite, la section R, qui est la section Rhône. Et elles vont, au bout d'une quinzaine de pages, ces deux bandes se rejoindre dans un seul flux poétique. Et ensuite donner un grand baquet d'eau, qui est le poème en prose de La Jonction. Si vous voulez.
Donc, qui vient conclure le cycle.
Qui vient conclure le cycle. Et d'une certaine manière, cette forme, enfin, disons, mentalement, peut se figurer comme un Y, donc hein, deux fleuves qui convergent, qui donnent un long jambage d'eau et qui ensuite s'étale Voilà. C'est comme ça que je le décrirais poétiquement. Et en même temps, le titre en italien, et je crois qu'il va être beaucoup question d'italien et d'Italie, entre nous trois, le
entre sous-titre, vous deux, surtout.
Entre nous deux, le sous-titre Essere due fiumi mentionne le fait que c'est un poème bilingue, si j'ose dire, puisque dans la section R, qui est disons la section aussi Rhône, mais c'est-à-dire aussi la section retour, puisque AR c'est aussi aller-retour, mais c'est aussi Arthur Rimbaud. Enfin bon, les poèmes de la section R se concluent tous par un refrain, qui est un refrain dont le premier vers est en italien, c'est un vers merveilleux d'Umberto Saba, Tartener ti volessi anche io non posso, te retenir le voudrais-je que je ne le peux. Et en fait, ce vers en italien est traduit par un vers français qui n'est pas du tout une traduction, mais qui est un vers pris chez un autre poète ou écrit par moi, et qui serait une approximation, comme les deux fleuves se rapprochent, qui serait une approximation de ce vers italien merveilleux.
En toute fin de cette jonction, vous ajoutez, Martin Rueff, les poèmes de la jonction résultent d'une contrainte provenant de leur titre, que commande un lieu et dicte un dispositif, et la dictée bilingue. Ça fait beaucoup de contraintes, hein, beaucoup d'injonctions, sans mauvais jeu de mots. Je me demandais de quel ordre était le lien entre cette écriture-là, hein, l'écriture de la poésie, et la traduction. Si écrire de la poésie a à faire avec la traduction, ou s'il vous a fallu traduire pour pouvoir commencer à écrire de la poésie.
C'est de fait un chantier intime tout à fait intense pour moi et tout à fait difficile. Ce que je peux dire, peut-être de communicable et peut-être qui peut susciter l'intérêt, c'est la chose suivante, c'est que mon premier livre, qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec un livre de Georges Didier-Berman, j'en dirai quelque chose plus tard peut-être, est un livre qui s'appelait Lapidaire adolescent, le livre d'une heure, et c'est un livre que j'ai écrit en Italie. Et d'une certaine manière, ce que je peux dire, c'est que c'est le bain italien qui m'a autorisé l'accès, si vous voulez, à la libération du geste poétique. J'écrivais depuis, comme beaucoup de gens qui se consacrent à la poésie, depuis toujours, si vous voulez, mais ce qui m'a autorisé, c'était le rapport à l'italien, la confrontation avec une langue qui n'était une langue que j'entendais, que j'apprenais, en traduisant des poètes d'ailleurs, et qui a libéré cette parole poétique en français. Et ce que je peux vous dire, par exemple, hein, j'ai été amené à y réfléchir récemment, c'est que j'ai traduit donc 6 livres de Calvino, là c'est le 6e qui va paraître.
On attend les Villes Invisibles.
Les Villes Invisibles, qui devraient sortir en novembre. Eh bien, Calvino est un prosateur parfait, limpide, d'une géométrie presque cristalline, on pourrait dire. Et d'une certaine manière, cette rigueur qu'il impose à son traducteur est libératrice de poèmes. Alors, je sais que ça peut paraître un paradoxe, mais ça marche comme ça. Et en revanche, on m'a demandé, mais alors, maintenant que vous traduisez Calvino, vous pourriez quand même passer à la prose narrative, parce que on dit souvent aux poètes, vous pourriez quand même maintenant faire des livres, vous pourriez faire des choses un peu plus sérieuses, des récits, etc. Et je suis convaincu du contraire, c'est-à-dire que se confronter à un auteur aussi purement prosateur que Calvino, donc lui, il aimait se définir comme un conteur, plus que comme un romancier, quelqu'un qui aimait faire des histoires, m'a totalement convaincu que je n'étais pas fait pour ça.
Georges Didier Berman.
Mais je pense que la jonction, elle est aussi là, c'est-à-dire, elle est dans ce qui réunit dans une même langue la philosophie et la poésie. Voilà. D'ailleurs, cette idée poésie-prose, moi, j'ai jamais rien compris. Moi, je lis une phrase de Kafka, pour moi, c'est un poème. Ça. Kafka poète, Kafka prophète, comme disait Benjamin. Et là, ce qui est très beau, ce qui apparaît dans votre livre, c'est tout à coup la forme essai apparaît. C'est-à-dire au milieu du poème, tout à coup on a comme le fragment d'un essai. Et ça c'est très beau parce que l'essai en fait, il y a le fameux texte de Adorno sur la forme de l'essai où il dit que c'est ni une œuvre d'art, ni un traité, une doctrine philosophique, c'est quelque chose entre les deux. C'est tellement beau, cette fragilité de l'essai qui est entre savoir et non savoir, comme dirait Bataille, par exemple. J'ai vu récemment, d'ailleurs, que Adorno répète quelque chose qu'a dit Ernst Bloch 40 ans avant. Je viens de découvrir ça, que Ernst Bloch a fait un éloge de la forme essai.
Dans Trace
Non, bien avant. Bien avant. Oui, bien avant. Entre 1912 et 1918. suite. Vous vous rendez compte? Oui. Il dit que, en fait, si on veut penser le temps, c'est-à-dire être vraiment un philosophe de l'histoire, il faut pas faire de la philosophie dogmatique. On ne peut pas faire seulement un poème ou seulement une prophétie. Il faut faire un essai. Voilà. Et là, l'essai montre en permanence son, je ne sais pas si les essais ont un nez, montrent leur nez au milieu des poèmes.
Martin Reff.
Oui, je crois que cette réflexion est très importante parce qu'il ne s'agit pas, et peut-être qu'il ne s'agit plus, et peut-être qu'il ne s'agira plus jamais de poser poésie et prose. Ce qui, en revanche, est d'importance, c'est de rappeler, et je m'inscris dans le droit fil de ce que vient de dire Georges Lieberman, que le poème, comme l'essai, et comme le récit, d'autre part, sur l'autre rive, si j'ose dire, hein, sont des manières différenciées d'habiter le temps. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de proximité de fait entre le poème et l'essai, comme habitation du temps, que entre l'essai et le roman, par exemple.
Alors, puisqu'on évoquait Calvino, Italo Calvino à l'instant, Martin Reff, on l'écoute, bien sûr.
On ne devrait pas écrire le premier livre, parce qu'en l'écrivant, on détruit un patrimoine de mémoire qui pourrait être la matrice de tous les livres à venir, ou bien qu'on ne devrait écrire que le premier livre, l'écrire et le réécrire.
Très bref extrait, donc la voix de d'Italo Calvino et au micro de son traducteur, hein, Jean Thibaudot, pour Un avoine nue sur France Culture. C'était en 76. Hein. Une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre.
Oui, la douceur et l'ironie de Calvino qui sont reconnaissables entre toutes, hein, et ce goût du paradoxe logique, hein, qui est un goût qu'il a rapproché progressivement de Borges, hein, etc. C'est-à-dire, là, l'imaginaire du premier-dernier livre ou du dernier-premier livre, hein, qui, dans la carrière de Calvino, hein, a une importance autre que ce simple paradoxe, puisque, comme on le sait, hein, Calvino a changé d'écriture, hein, après son premier livre, parce que précisément son premier livre était trop, pour le dire un peu techniquement, einaudien, c'est-à-dire lié à Pavese, à Natalia Ginzburg, hein, et il est allé vers une écriture qui était beaucoup plus géométrique, comme je le disais tout à l'heure. Je rappelle aussi que Calvino, comme beaucoup d'écrivains de sa génération, hein, a commencé par écrire des poèmes.
Je retiens, quant à moi, si vous me permettez, hein, pas de premier livre, ou alors que le premier livre, donc il nous enferme dans un... Mais il affirme quelque chose d'essentiel, hein, c'est qu'il associe le mot mémoire au mot matrice. Je trouve ça magnifique. Ça veut dire, il faut toujours faire le premier, c'est-à-dire toujours faire le premier, c'est déjà un paradoxe logique. Si c'est toujours, c'est pas le premier. Ça veut dire, il n'y a pas de commencement, il n'y a que des recommencements. Il faut sans arrêt recommencer. Voilà, c'est ça que je retiens, moi, dans cette idée de mémoire matrice.
Alors, puisqu'on est en Italie, ceci dit, on va y retourner, je pense, plusieurs fois au cours de l'émission. Vous parliez, Martin Reff, à l'instant, ce voisinage, ou en tout cas cette fréquentation de l'Italie qui aurait libéré le poème, d'une certaine façon, chez vous. Et vous dites que l'Italie, au fond, nourrit un autre rapport à la prose poétique que celle que nous cultivons en France. Qu'est-ce qui manquait en France pour qu'il vous ait fallu recourir à cette communauté italienne?
Si vous voulez, il y a deux niveaux dans votre question. Il y a un niveau général qui est le rapport, si vous voulez, prose-poésie en France et en Italie. Il faut rappeler que la langue italienne est une langue de poètes jusqu'au XIXe siècle. Hein, ce n'est que... Bon, alors, cette généalogie est bien connue. Ce n'est qu'avec Manzoni que ce camp, disons, si vous voulez, une langue qui sera la langue de la prose et qui va devenir la grande langue prosaïque italienne du XXe siècle, pour une raison toute simple, c'est que les enquêtes qui ont été menées par les ethnophilologues à la fin du XIXe siècle le révèlent. En Italie, à la fin du XIXe siècle, il n'y a qu'un seul pour cent de la population qui écrit italien. La plupart des gens écrivent leur dialecte et surtout le parlent, ce qui est encore le cas. Vous savez, il y a ce texte qui est bien utile de Proust à la fin de la recherche où il dit il faut savoir se libérer des nomenclatures pour accéder à cette intimité avec laquelle on va écrire. Bien moi, c'est comme si, mais je serais assez mal placé pour le dire et ça pourrait être ou trivial ou comment dire vaniteux de parler de soi comme ça. Mais disons, ce qui s'est passé pour moi, c'est comme si le bain dans une autre langue avait libéré les nomenclatures qui m'empêchaient d'accéder de manière libérée au poème.
Et choisir la poésie, alors c'est non pas que je vous demande de vous justifier de ne pas écrire de choses sérieuses, comme vous disiez tout à l'heure, Martin Mieff, mais choisir la poésie, c'était choisir quoi ou refuser quoi?
Moi, ce qui me vient, ce sont des poèmes, donc c'est ce que je sais faire. Enfin, ça ne veut pas dire que je le fais bien, mais c'est ce que je sais faire, voilà. Avec ce que je suis.
Ça sera tout?
Oui, c'est-à-dire... Non, mais voilà, on peut rentrer dans plus de détails, si vous voulez. C'est-à-dire que on a tous, toutes et tous, des amis, disons, narrateurs. Ça veut dire que ce qui leur vient, c'est des idées de phrases qui peuvent monter, pour prendre un mot qu'a bien réexpliqué Georges Divin, qui peuvent monter dans des séquences narratives qui vont donner ensuite des proses qui seront peut-être des récits ou des romans. Moi, ce qui me vient, c'est des vers, pour l'essentiel, et puis des idées de poètes.
Mais la narration aussi vous vient, et vous vient de plus en plus. Mais
Oui, mais c'est vrai qu'elle ne me vient qu'autorisée par un dispositif poétique. Je ne publierai pas une prose narrative, par exemple. Ça, c'est pas possible.
Ça veut dire quoi, c'est pas possible?
Vous me posez des questions très, très, très dures parce qu'elles sont liées à l'intimité de mon... Non, mais parce que je ne sais pas vous répondre, si vous voulez. Mais je sais que, voilà, par exemple, Sanglant glosant ou la grande prose de la jonction, qui sont des proses entre l'essai, comme disait Georges Lieberman tout à l'heure, et le poème en prose, ce sont pour moi des textes qui font partie de la jonction. Je ne pourrais pas les en extraire, si vous voulez. Quant à raconter des histoires, non. Voilà.
Voilà, on va en écouter une quand même.
Le bleu présente pour l'historien un problème particulièrement intéressant. En effet, son histoire, c'est celle d'un renversement. Dans les sociétés anciennes, spécialement chez les Grecs et chez les Romains, c'est une couleur qui compte peu, voire une couleur désagréable. Les Romains, par exemple, ne s'habillent jamais en bleu. À Rome, avoir les yeux bleus, c'est très dévalorisant. Et aujourd'hui, le bleu est la couleur préférée de plus de la moitié de la population, partout en Europe occidentale, et même aux États-Unis, dans l'ensemble du monde occidental, pourrait-on dire. Donc pour l'historien, il y a vraiment un renversement de valeurs. C'est ce qui m'a intéressé, j'ai voulu voir comment cela s'était passé. Et pour ce faire, l'histoire sociale des couleurs m'a appris davantage que l'histoire artistique ou scientifique des couleurs.
Parce que la couleur est un fait de société.
Pour moi, oui. La couleur, c'est d'abord un fait de société. Je pense que c'est la société qui fait la couleur, et non pas tellement l'œil ou le cerveau, ou la nature, ou Dieu, je ne sais pas. Je crois qu'un sociologue ou un anthropologue serait d'accord avec moi. La couleur, c'est d'abord un problème social.
Alors, un poète, je n'en sais rien. Un philosophe non plus. C'était la voix de Michel Pastoureau en 2000, en micro d'Alain Weinstein sur France Culture. À propos du bleu dont il venait d'écrire une histoire, on pourrait écouter les belles histoires de Pastoureau, écrivez-vous dans votre poème, Martin Rueff, un poème à rêverie bleue. Donc là, c'est le premier cycle qui ouvre la jonction, qui ouvre votre recueil. Je vous ai vu un petit peu hocher de la tête sur l'idée que la couleur serait un fait de société.
Disons que c'est la thèse générale de Pastoureau sur toutes les couleurs. Et là, sur le bleu, il a en effet un terrain d'enquête privilégié, puisque de fait, il y a eu un renversement dans la réception du bleu. Cela dit, je crois qu'on apprend beaucoup du bleu dans l'histoire de l'art. Et notamment, pour ma part, il y a beaucoup de peintres dans ce livre de poèmes. Mais par exemple, je considère, je ne suis pas le seul, que les inventions de bleu, comme chez Antonello de Messine ou chez Klein, bien sûr, pour prendre des exemples classiques, nous apprennent beaucoup de ce qu'est le bleu. Dans le cas qui nous occupe, là, dans La mer fait peau neuve, en fait, c'est une réflexion...
Alors, La mer fait peau neuve, c'est donc le titre de ce cycle-là, La mer en un seul mot.
Oui, amer d'amertume, bitterness. Pour moi, c'est un... Je peux en parler de manière peut-être plus convaincante que mon rapport au récit, parce que, c'est le lieu, si vous voulez, d'un ensemble de superpositions, de jonctions, justement, imaginaires et rêveuses, mais aussi savantes, sur le rapport entre le drapeau européen, qui est un drapeau bleu, dont on connaît bien l'histoire maintenant, il y a eu toute une hésitation sur la forme et la couleur qu'il allait falloir donner au symbole de l'Europe. Et finalement, c'est le bleu marial qui sert de drapeau européen, et la disposition des étoiles des étoiles jaunes sur le drapeau européen est aussi inspirée d'une vision qu'on trouve dans l'Apocalypse, hein. Et c'est donc un des collaborateurs de Jean Monnet qui lui avait suggéré ce bleu. Et disons, à partir de cette histoire-là, dont j'évoque quelques traits...
Notamment par une prière au caban bleu de Marie.
Voilà, une prière au caban bleu de Marie, parce que précisément, si faire un poème, c'est aussi, je cite ici à la fois Agamben et Michel Deguy, hein, c'est profaner d'anciens symboles pour leur redonner une circulation. Alors profaner, ça veut dire tout simplement les sortir du sacré pour les redonner à l'usage. Eh bien moi, j'ai utilisé, si vous voulez, le caban bleu de Marie, qui n'était pas un caban, bien sûr,
le manteau,
et qui devient en fait une espèce de voile bleu qui se confond avec la mer, hein, et pour évoquer un des destins, c'est pas le seul évidemment, mais un des destins de l'Europe contemporaine, qui a à voir avec, évidemment, la Ninfa Dolorosa, la plainte et la lamentation des mères, et d'où le rapport de la mère au fils dans ce poème. Et par ailleurs, ce bleu, vous avez évoqué tout à l'heure cette inflexion de ce cycle, hein, ce bleu va devenir le motif de ce que j'appelle les hématopoïétiques, hein, c'est-à-dire le fait que les bleus qu'on a dans la peau ou sur la peau, là aussi, hein, ça, c'est la question du rapport entre peau et chair, une question très importante dans l'histoire de la peinture. Hein, je regarde Georges Duberman, et la question du bleu des ecchymoses prend, si vous voulez, le dessus, si j'ose dire, voilà, le bleu des bleus prend le dessus sur le bleu du caban, et toute une partie de ce cycle est consacrée aux hématopoïétiques, et j'étais stupéfait. C'est des trouvailles que la poésie un petit peu savante réserve à ceux qui s'y adonnent, que le terme par lequel les médecins évoquent la formation des bleus, mais aussi la formation du sang, c'est hématopoïétique. Et donc, c'est pas du tout un terme que j'invente, hein, mais je le déplace, et donc moi, disons, je fais des poèmes avec du sang, pour dire les choses de manière plus triviale, peut-être.
Georges Didier Berman.
À propos de l'ecchymose, je crois que les Grecs, ils disent pas qu'on a un bleu, ils disent qu'on a un noir.
Oui.
Et alors, ce qui est frappant dans cette histoire, moi aussi, j'aime beaucoup le travail de Pastoureau, il est fondamental et très utile. En même temps, il y a une limite, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que la question de la couleur est limitée à ce qu'elle symbolise. Alors que on est peut-être plus intéressé quand on est proche de la phénoménologie ou de la psychanalyse ou de la poésie, de s'intéresser à ce que la couleur produit comme symptôme. Alors là, ça veut dire ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, et surtout ce qu'elle modifie. La couleur, c'est pas il y a une page, là je suis devant une page, je dirais que la page c'est le sujet, le prédicat c'est blanc, mais c'est complètement c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand ça se modifie. Or, le bleu est une couleur qui va vers les autres, c'est-à-dire elle va vers le rouge, et ça c'est très clair dans votre livre. Parce que déjà la question de l'incarnat dans les théories de la peinture depuis le XVIe siècle italien jusqu'à Diderot, Hegel, etc., c'est ce mélange. Qu'est-ce qui fait que la chair, c'est quelque chose où il y a un certain jaune de la peau, mais il y a surtout le bleu des veines et il y a le rouge des artères. Et puis, moi j'ajouterais que le bleu va vers une autre direction, c'est le noir. À travers le gris, il y a un magnifique poème de Francis Ponge sur l'azur cendré du côté de la Provence. Et puis, je me souviens que j'avais travaillé sur un cas très précis, c'est le fait que dans la Bible, dans Exode et Nombre, Dieu prescrit qu'on mette un châle de prière, que ce châle ait des franges et qu'au bout des franges, il y ait une certaine couleur. en hébreu, ça se dit Techelet, mais personne ne sait ce que ça veut dire. On sent que c'est un bleu, vaguement. D'accord. Mais donc on a traduit ça par azur, mais simplement c'est une couleur qui s'est perdue. C'est pas l'indigo, c'est pas. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, il s'agissait de la couleur d'un mollusque qui, en fait, comme l'encre de la seiche, ce sont des couleurs qui se modifient avec la lumière. Donc qui passent du rouge au bleu et au noir. Donc la couleur, c'est pas bleu ou rouge. Bon, c'est bien de faire un volume bleu, un volume rouge, mais ce qui est beau dans la couleur, c'est quand ça bouge. Et donc une ecchymose, c'est exactement ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, on sent que c'est un bleu?
Oui, parce que c'est associé au saphir, au ciel. Voilà, par exemple, là aussi, il y a une relation directe entre le rouge et le bleu. C'est que le sang du sacrifice... je sais plus si c'est dans Exode ou dans Nombre, il doit être posé sur une pierre bleue. Hein, c'est une pierre de ciel, si vous voulez. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. Donc c'est ce rapport dynamique entre les couleurs qui nous importe, hein, je pense que vous aussi, plus que sa signification symbolique.
Est-ce que vous voulez bien nous en lire un extrait, Martin Reff?
Oui, et je. Un poème de la mère Fépeneuve, alors.
Oui, s'il vous plaît.
D'accord, oui. Parce que il y a aussi un poème de la jonction qui va exactement dans le sens de la jonction des couleurs, mais on y viendra peut-être plus tard.
Alors, la jonction aussi, je vous en prie, hein. Alors, j'étais effectivement plutôt partie sur.
Alors, un bref de la mère Fépeneuve et un bref de la jonction. La description du corps humain, hématopoïétique 15. René Descartes dit avoir démontré pourquoi le sang est rouge et pourquoi le sang est bleu. Ce sont des boules, plusieurs et petites, qui composent la lumière, elles viennent vers nous. Si elles tournent moins vite, qu'elles ne sont en ligne, droite, le sang nous paraît bleu. Et si elles vont vite, c'est rouge. Il y croit dur comme fer, lui aussi, rouge quand chaud, et le charbon ardent de même. Il dit que la couleur du visage ne vient que du sang et que la joie fait rougir, la tristesse pâlir, et comment on rougit souvent aussi, en étant triste. Car la tristesse, de part en part, resserre les orifices du cœur. Il n'y a rien qui n'augmente davantage que le sang qui est envoyé en la passion de l'amour. René Descartes n'explique pas pourquoi il est des peurs bleues et des bleus désarroi.
Merci.
Et donc un poème de la jonction sur la dynamique des couleurs, hein, on peut appeler ça comme ça, ou la fluidité des couleurs, ou la nympha fluida chromata, ou chromatica. La lumière fait partie du sujet. Je voudrais, comme Claude, qu'il soit Monet ou Lorrain, dire la jonction aux sept instants du jour et suivre la lumière en ses justes passages. La guida del tempo e il sole. Je prendrai la jonction à la préaube, avec ses écharpes de nuit, sous les arches du pont, heure encore des animaux, des chasseurs, des poètes. Puis, quand la lumière point, à l'aube du jour, argentée ou vermeille, et quand le soleil se lève, et qu'il darde en oblique sur la cime des arbres, des fabriques, des falaises, les eaux lourdes et dormantes, des deux fleuves endormis, voilà, on est embarqué. Et la lumière plus brillante du partage de midi, crue, à n'y pas voir, et la chaleur des beaux jours, le soleil quitterait l'entonnoir et parvenu au milieu de son cours, le voilà qui descend, en tenue rouge, orange, violacée, et disparaît. Alors il fait nuit sur la jonction. Trattenerti volessi anche non posso, quand les feuilles de peuplier se colorent avant le crépuscule, tu réclamais le soir. Le voici.
Voici la jonction, donc effectivement, les couleurs. Georges Duberman parlait plutôt donc parlait de son intérêt pour ce que fait la couleur plutôt que pour la symbolique de la couleur. On pourrait presque parler même du sentiment du bleu. En tout cas, le dernier recueil, le recueil précédent, Martin Reff, qui s'appelait Icare cri dans un ciel de craie, paru en 2008, précipitait lui Icare dans le temps présent et dans les fonds sous-marins, hein, qui était une chute libre au sens littéral du terme, hein, presque une chute volontaire, en tout cas du ciel à la mer, sous laquelle vous vous attardiez longuement. Donc là, on est encore du côté du bleu qui tirerait vers le noir, d'une certaine façon. Et il y a de quoi écrire et voir sous l'eau, hein, bleu toujours. Donc, d'où viendrait cette insistance à l'eau? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui aurait à faire avec l'écriture, Martin Rueff? Je pourrais dire l'insistance au bleu, bien sûr, mais aussi l'insistance à l'eau.
Oui, vous avez raison, je me suis aperçu de cela moi-même, c'est-à-dire de cette espèce d'obsession pour l'eau, comme si il y avait quelque chose comme un vieux livre de Charles Moron qui s'appelait « Des métaphores obsédantes au mythe personnel ». Donc peut-être que ça relève de cela. En tout cas, il est clair, si vous voulez, que la fluidité, qui est un thème qui nous rapproche aussi, hein, la fluidité, le passage, la métamorphose, sont des obsessions, mais aussi des thèmes, des motifs, des planches de travail, pour ainsi dire, hein, qui sont partout présentes dans mon écriture poétique. Est-ce parce que j'ai grandi à Marseille? Je ne sais pas. Hein. En tout cas, oui, je le constate comme vous. De fait, dans Icare, c'était une plongée. Hein, vous l'avez très bien évoqué, je trouve. Hein. On était sous l'eau. Hein. C'est même, on peut dire, la grande invention de ce livre. Puisque jusqu'à maintenant, on s'était arrêté à l'impact. Alors que dans Icare, la moitié du recueil du livre est sous l'eau. Hein, donc, mais c'était aussi, justement... En fait, c'est très lié à la notion de bain. Voilà. Je suis obsédé pas par les bains, mais par le bain. Je m'en explique de la manière suivante, si vous me permettez. C'est-à-dire que il me semble que le poème, c'est un bain. Et la meilleure manière, je trouve, de le décrire, c'est la façon suivante. C'est que quand nous prenons des pierres sous l'eau, elles ont un éclat merveilleux. Elles sont lustrées, elles brillent, et les enfants d'ailleurs, ils s'en mettent plein le maillot ou plein les poches, hein, ils les remontent et puis ils les déposent sur la plage, et la plage, hein, les assèche, et les asséchant les rend plus grises. Hein, et c'est toujours un peu décevant quand on rapporte les coquillages à la maison parce qu'ils sont plus ternes. Et bien, je crois que le poème, ça consiste à créer un bain dans lequel le langage soit dans cet état de scintillement permanent. Voilà. Et ça renvoie aussi à la question des lucioles, hein, c'est-à-dire à l'éclat de ce qui reste dans la disparition. Et je crois que le poème, quand il fonctionne, c'est la création de ce bain. Donc, si vous voulez, il y a la question de la fluidité, le rapport entre écrire et les fluides, nymphe fluida, la question de créer, justement, des espèces de mouvements, le mouvement de la couleur, le sentiment de la couleur, tout ce que on vient d'évoquer il y a un instant. Mais il y a aussi l'idée de créer ces bains. En photo, je crois, on dit des bains de révélateurs ou des bains de révélation. Enfin bon, des bains révélateurs dans lesquels le langage a un sentiment particulier. Si j'arrive à ça, je suis très content. Voilà, je peux vous dire cela de manière aussi naïve.
Le premier mouvement du Stabat Mater de Rossini, hein, sous la direction de Giulini, léger anachronisme et quart géographique, pour ce Stabat Mater Dolorosa chorale, et ça a son importance, hein, pour nous mener jusqu'à vous, Georges Didier Huberman, et à votre Ninfa Dolorosa, essai sur la mémoire d'un geste qui paraît chez Gallimard, qui est une sorte d'enquête, hein, qui déplie pas à pas vraiment une image, une photographie et par elle un geste, hein, qui est celui de la lamentation. Vous ouvrez sur la description d'une sculpture de Pascal Convert qui date de la fin des années 90, hein, qui est une sorte de relief en cire pâle, blanche en tout cas, une scène comme creusée dans la matière, hein, qui interprète une photo prise presque 10 ans plus tôt par le photojournaliste Georges Mérillon, en janvier 90, hein, une photo célèbre prise au Kosovo, scène de veillée funèbre dans laquelle on voit 9 femmes qui entourent, qui soutiennent une mère éplorée, tête renversée, tandis qu'au premier plan gît le cadavre du fils, qui est recouvert d'un linceul blanc, tête découverte, ce fils tué au cours d'une manifestation en faveur de l'indépendance du Kosovo. Alors un mot peut-être sur cette image que vous dépliez, donc hein, littéralement, Georges-Didier Huberman, avant de la regarder, de la recadrer même à plusieurs reprises, de la soulever, de la creuser, de vous y pencher. Qu'est-ce que vous avez commencé par y voir, ou même par y apercevoir, pour reprendre votre vocabulaire ?
Vous venez de vous excuser du léger anachronisme à propos de Rossini. Moi, j'ai joué carrément la carte de l'anachronisme. Je pense qu'il peut être fécond.
Vous en avez fait l'éloge à plusieurs reprises.
Oui, alors c'est clair avec cette image qui est donc une image récente, une image de presse. J'oserais dire que Mérillon n'est pas un artiste, hein, c'est un photographe de presse, ce qui n'empêche pas l'image d'être extraordinaire. Pascal Convert est un artiste, il a fait tout un travail dans lequel à la fois il respecte et il déplace complètement les coordonnées de cette image. On est donc dans des problématiques, je dirais, contemporaines, avec tous ces débats dont il est toujours très difficile de se sortir sur qu'est-ce que peuvent les images, est-ce qu'elles en montrent trop, la violence, etc., etc., la pitié, voilà, on a ça régulièrement dans la presse.
On a eu ça beaucoup avec cette image aussi.
Bien sûr, on a eu ça avec cette image. Le simple fait d'ailleurs qu'elle ait été baptisée Pietà du Kosovo, ce qui a souligné donc des débats sur le fait que ce sont des femmes musulmanes. Est-ce qu'on peut dire Pietà pour des femmes musulmanes? Voilà.
Donc par une sorte d'opération un peu mystérieuse d'ailleurs, hein, cette façon dont elle a été rebaptisée après coup, parce qu'elle n'a pas été publiée tout de suite, hein, quand elle a été prise cette photo.
Oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on s'est arrangé pour qu'elle soit irregardable dans tous les cas. Soit on l'a censurée au début, soit on l'a trop montrée dans des contextes qui n'étaient plus le sien. Donc
parce que qu'est-ce qui se jouerait au fond dans ce glissement justement un peu étrange, hein, du fait, c'est-à-dire oui, de l'image photojournalistique à l'icône, en tout cas dans son intitulé.
D'accord. Il est toujours très facile de dire que c'est catastrophique. C'est toujours le plus facile. C'est de dire, oh, c'est mal, c'est catastrophique, bon, on a trahi quelque chose. Bon, je dis que c'est facile parce que moi, j'ai interviewé le photographe, je connais exactement les circonstances de la prise de vue, on a prétendu qu'elle était mise en scène, c'est complètement faux. Il faut savoir aussi que dans ce village du Kosovo, lorsque 9-10 ans plus tard, ce qu'on appelle les tigres, enfin les milices serbes qui massacraient les villageois sont arrivés dans le village. La première chose qu'a faite Aferdita, la jeune sœur du mort, que l'on voit sur la photographie en marge, c'est la seule qui n'a pas un fichu sur la tête d'ailleurs, et ce qui est très important, bon, peu importe, et c'est la première chose qu'elle a faite, c'est de prendre la photo que Mérillon lui avait offerte à la famille, et elle l'a enterrée pour la préserver. C'est-à-dire que pour ces gens-là, cette photo, c'est très important. Donc l'accusation, la perpétuelle accusation, la facile accusation des images documentaires aujourd'hui doit être dépassée par un autre point de vue. Alors j'ai essayé, au risque de l'anachronisme, de faire ce que dit si magnifiquement Benjamin à propos de Kafka. Il dit Kafka ouvre un ciel derrière chaque geste. Ah, qu'est-ce que c'est beau. J'ai essayé ça. C'est-à-dire, j'ai essayé de chercher dans une longue durée, c'est-à-dire fatalement anthropologique. Et c'est pourquoi ce livre a comme sous-titre, peut-être le sous-titre est plus important encore que le titre, c'est « Essai sur la mémoire d'un geste ». Comment un geste porte-t-il mémoire ? Se souvient-il de lui-même ? Et cela, bah, le Kosovo, vous savez, c'est exemplaire parce que il y a les odes homériques, il y a les païens, il y a les chrétiens orthodoxes, il y a les musulmans, il y a tout se croise. Et là, on peut avoir une lecture peut-être plus généreuse, moins obstinément critique de cette notion de Pietà, à condition d'écouter le mot. Pietà n'est pas un mot religieux, hein. Pietà est un mot éthique. La pietà, c'est une vertu éthique, c'est le devoir de mémoire, en quelque sorte, dû à ses parents. C'est le respect des parents, la pietas. Saint Thomas d'Aquin lui-même dit que pietas n'est pas un concept religieux, hein, attention. C'est très très important ça, c'est social, c'est éthique, c'est politique. Donc voilà, j'ai essayé d'élargir les choses à mes risques et périls, hein, parce que on aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu... Voilà, d'ailleurs c'est un signe que ce livre, il a son lieu de naissance, alors j'ai un point commun avec Martin Rueff, hein, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Moi, je suis devenu véritablement historien de l'art, j'ai l'impression, dans l'immersion du voyage italien, qui a été justement non pas un bain de linguistique, mais aussi, de toute façon, j'ai appris l'italien sur place, j'ai beaucoup lu l'italien, mais un bain d'images, et c'est là que l'outil, disons, théorique pour l'histoire de l'art le plus important pour moi, c'est-à-dire Abi Warburg, est apparu. J'ai commencé, d'ailleurs, j'ai lu Abi Warburg en italien d'abord, dans sa traduction italienne. Je suis un assez mauvais germaniste, donc ça m'a beaucoup aidé de lire Warburg en italien, bon, il y a très longtemps maintenant.
Et cette Italie, justement, vous y êtes allé, Georges Duberman, je crois, ça devait être au début des années 80, et où, oui, justement, vous êtes parti en Italie, oui, étudier... Dites-vous, des images miraculeuses qui pleurent ou qui saignent.
Oui, c'est vrai.
C'est ce qui vous a amené en Italie. Au fond, alors on parlait d'insistance tout à l'heure à propos de Martin Rueff.
Oui.
Ce geste-là, en tout cas ce geste ou ce motif, hein, mais ce geste, pour être plus précis, de la lamentation, vous occupe depuis longtemps maintenant, depuis très longtemps même. Je pense alors évidemment à des textes que vous avez écrits, mais je pense aussi à cette double exposition, l'une au Frénois et l'autre au Palais de Tokyo, récente, qui s'attardait ou qui collectait à la manière de Warburg, justement, alors, ça serait trop long à expliquer, mais en tout cas, qui reprenait le principe de l'atlas de Warburg, des planches de Warburg, en collectant, en rassemblant, là en l'occurrence c'était des images de lamentation. En quoi est-ce qu'un tel motif vous regarde ? Ou alors, dit autrement, qu'est-ce que cet intérêt si vif dirait de vous, Georges Duberman ?
Mais en fait, je pense que ce qui m'a convoqué depuis très longtemps, c'est la puissance des images. Pourquoi elles ont une telle puissance ? Bonne ou mauvaise ? Bonne et mauvaise. Hein ? Pourquoi c'est si puissant ? Alors c'est vrai que depuis mon tout premier travail, c'était en fait un travail sur un geste pathétique, c'est-à-dire ce travail sur l'hystérie que j'avais fait il y a si longtemps là. Bon, bah, c'est une pathos formelle. J'appelais pas ça comme ça à l'époque. J'avais pas lu Warburg, mais voilà, c'est une interrogation sur les images en tant qu'elles véhiculent des gestes, en tant qu'ils véhiculent un pathos. Voilà.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Martin Rueff, vous évoquiez tout à l'heure aussi la question de la plainte. Alors, on va pas tout mélanger non plus, plainte, sanglots, lamentation, pathos, pathétique, tout ça mérite infiniment de précautions et de précisions. Néanmoins...
Oui, moi, ce qui m'a frappé dans la manière dont Georges Lieberman déploie, ou hein, vous avez dit creuse aussi cette image, justement, c'est la conviction que le savoir de ce qui se joue de nos émotions dans les formes a besoin d'un site et d'un dispositif tout à fait particulier. Parce que ce qui frappe aussi dans les livres de Georges Lieberman, c'est pas simplement la qualité du savoir et de l'expression aussi, hein, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes même présenté comme ça, hein, Georges Lieberman, c'est un écrivain. Ce qui frappe aussi, c'est le dispositif des livres, hein, pas simplement la confrontation entre l'image et le texte, hein, mais aussi une manière très particulière de grouper les informations, etc. Et moi, ce qui me retient dans tous ces livres que je lis, c'est justement hein, cette conviction que pour accéder au savoir de ce qui se joue dans nos émotions, dans les formes, il faut inventer des formes de livres. Qui sont des essais, on peut dire maintenant, à la Didier Duberman. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui font des essais comme ça. Même les Benjaminiens ou les Warburgiens qui sont proches de Georges Didier Duberman, cette constellation que j'évoquais un peu tout à l'heure, hein, ils ne font pas des livres comme lui. D'accord ? Donc il y a une manière, par exemple, d'enchasser, hein, ce que j'appellerais l'enchassement du savoir et des phrases, hein, le surgissement et la manière dont vous disposez. C'est pour ça que,
si vous voulez, le montage. Enfin,
oui, le montage. Aussi. C'est pour ça que c'est pas du tout la compagnie des poètes. C'est pas Georges Lieberman qui accompagne un poète. C'est que lui-même, la manière dont il travaille, pour moi, hein, est pas du tout loin de ce que nous on fait, nous qui écrivons des vers, hein, pour dire les choses comme ça, dans nos poèmes. C'est-à-dire, il faut trouver un dispositif qui fasse émerger les choses. Et pas les noyer hein, dans une espèce de réconciliation narrative. Je sais bien que tous les récits ne sont pas des conciliations ou des reconfigurations, pour parler comme Ricoeur. Mais je trouve, si vous voulez, que la manière de faire scintiller ou de rendre intense le rapport entre émotion et forme dans le tissu verbal nécessite un dispositif. Et c'est évident que Didier Hornan a inventé ce dispositif.
On reviendra sur la photographie après, mais puisque vous évoquez justement la question de l'écriture et de la forme, en fait, de la pensée qui semble tout à fait cruciale dans cette série, dans ce cycle de textes en particulier, hein, enfin dans celui dont on est en train de parler, mais dans bien d'autres avant, c'est aussi ce que donne à voir ce livre-là, c'est-à-dire un processus d'écriture, un processus de pensée, comme si alors vous écriviez avec les images, y compris lorsqu'il s'agit de s'en remettre à vos lectures. Alors je m'explique, je ne sais pas si c'est très clair, je ne sais pas si vous... J'imagine qu'avec l'ordinateur, vous travaillez autrement maintenant, que ça a dû modifier peut-être aussi quelque chose dans votre...
Je ne travaille pas du tout avec l'ordinateur. Ben, c'est-à-dire, je tape mes textes sur un ordinateur, sur Word, mais je n'écris pas avec l'ordinateur. Parce j'écris avec des fiches et c'est ce travail en fait de montage.
Vous écrivez avec des images, même lorsqu'il s'agit de texte finalement. Quand vous manipulez ces fiches.
Voilà. Regardez, là j'ai un papier 21-29-7 à 4. Je le plie en 4. Ça donne en fait quelque chose qui est l'unité de mon écriture et qui est en même temps la même taille qu'une carte postale. C'est-à-dire que je peux mélanger les images et les textes. Et c'est comme ça que je travaille en fait. Hein. J'ajoute aussi que cette série, Ninfa, est un hommage. C'est-à-dire, Warburg m'a beaucoup ouvert des perspectives, mais Warburg ne doit pas être commenté à l'infini, parce que c'est fatigant, c'était un fou total et tout ça. Et en fait, Warburg doit être utilisé, doit être poussé à bout. Donc, il a écrit un minuscule texte qui s'appelle Ninfa Fiorentina, qui est sublime. Et alors, moi, ça fait, je sais pas combien de livres, mais j'en ai plusieurs encore. Pour rendre hommage à cette intuition de départ.
C'est-à-dire?
L'intuition de départ, c'est celle de Warburg. Il a compris qu'il y avait dans la peinture italienne, il a vu ça sur une fresque de Ghirlandaio en particulier, mais il voyait ça sur plein d'autres exemples. Il y avait cette espèce de jeune fille qui, en général, était dans un coin d'un tableau ou d'une fresque ou d'un relief, c'est-à-dire une figure de bord, comme disait autrefois Louis Marin, une figure de bord qui arrive par le côté, comme ça. Elle arrive et elle ressemble à rien. Tout le monde est habillé en Italie, Florence, bourgeoisie, 15e siècle. Et elle, elle a une robe qui flotte, elle a un vent qui lui souffle dans les draperies pour elle toute seule. Il n'y a pas de vent ailleurs. C'est une sorte de fantôme de grâce qui débarque comme ça dans l'image, qui est donc un symptôme. Elle est très très désagréable pour certains comme Savonarole, qui évidemment ne supportait pas qu'on puisse en quelque sorte dénuder Marie-Madeleine et en faire une ménade, parce que c'est ça, c'est la nymphe, c'est ça, c'est la ménade. Bon, alors
la
voilà.
La nymphe Ninfa. Hein, pardon,
Ninfa, c'est la nymphe. Et alors donc cette espèce de voilà l'intuition de Warburg, pour répondre à votre question, c'est que ce petit personnage de bord qui a une économie figurale complètement différente en général du reste du tableau, de la fresque ou du relief, elle est un symptôme de temps. C'est elle la survivante. C'est elle qui arrive d'un autre temps et même d'autres religions, d'autres façons de penser la transcendance, d'autres façons. Voilà. Et donc, elle a une fonction bouleversante. Elle a une fonction bouleversante.
Fonction bouleversante dont se charge ce personnage de bord qui se trouve dans la photographie que vous regardez ou que vous recadrez dans votre livre, Georges Didier Huberman, qui est donc ce personnage de la sœur.
Ouais.
Eh bien,
Ferdita, c'est le nom de cette... à l'époque, elle est adolescente, donc traditionnellement, c'est la seule qui n'est pas voilée. Il y a toute la question du voile dans ce livre, évidemment. Le voile qui a été imposé, alors on en fait une question musulmane, mais attention, hein, le pire qui a imposé le voile, c'est Saint Paul quand même, hein. Saint Paul suivi par Tertullien. Ce sont donc des théologiens chrétiens. Alors, Ferdita, elle est dans le...
Elle est recadrée dans le livre.
Elle est au bord. Hein. Je la recadre pour qu'on... Ouais, mais dans l'image, elle est vraiment au bord. Elle a cette espèce de tristesse révoltée. Elle a quelque chose de bouleversant. Et elle m'a immédiatement amené sur Antigone. J'ai fait une jonction là, j'ai fait même deux jonctions. La première jonction, c'est cette jonction avec l'idée politique de soulèvement, c'est-à-dire que des gens qui pleurent un mort, c'est pas juste des gens tristes, en deuil, et puis voilà, on va s'apitoyer à l'infini. Non, quand on regarde comment ont lieu les lamentations dans différentes sociétés, en tout cas j'ai pris ce qui correspond aussi à la logique de Warburg, c'est-à-dire le pourtour méditerranéen, pour aller un peu vite, les lamentations sont d'une énergie de protestation, souvent de malédiction, hein, dans les tragédies grecques, on se lamente pour maudire. Donc ça, c'était une première jonction, lamentation, soulèvement. La deuxième jonction, je me souviens que j'avais un paquet de fiches, je ne savais pas où le mettre. C'était les fiches sur la lamentation biblique. Parce qu'au fond, je partais du Kosovo, j'ai parlé de l'actualité, de la guerre, de la politique actuelle, et puis petit à petit, du Moyen-Âge, des sources byzantines, et puis de la Renaissance, et voilà, les peintres du XVIe siècle, voilà, et puis Caravaggio, et puis bon... Et où est-ce que j'allais mettre tout ça sur la Bible? J'ai compris à la fin, grâce à un texte magnifique que j'ai apporté avec moi, d'ailleurs, pour vous le montrer. C'est ce livre de Gershom Scholem, intitulé « Sur Jonas, la lamentation et le judaïsme ». Texte qu'il a écrit dans un moment de très grand dialogue avec Benjamin. Il avait 20 ans. Et ce texte est un chef-d'œuvre. Et là, justement, la deuxième jonction qui touche de très près à ce qu'on a pu dire déjà jusqu'à présent avec Martin Rueff, c'est comment la lamentation devient poème. Comment la lamentation dans le judaïsme, c'est à la fois un cri qui se répète, ce cri est une question, « Eicha ». Comment, pourquoi, alors l'idée que on se lamente pour poser une question, mais que cette question, elle est poétiquement agencée avec, vous parliez au début de l'émission, on parlait de contrainte, avec une contrainte extrême, qui est que c'est un poème acrostiche, Aleph, Bet, Gimel. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a le maximum de quelque chose qui va vers l'animal, et on a le maximum de quelque chose qui va vers la cabale, si on peut dire, puisqu'on parle de Scholem. Voilà. Et cette jonction-là, elle est extraordinaire.
Vous écrivez, pour ouvrir les yeux, il faut savoir les fermer. L'œil toujours ouvert est un œil sec. Pour bien regarder, il nous faut, paradoxe d'expérience, toutes nos larmes. C'est la fin de cette émission, donc je vous laisse terminer entre vous, Martin Rueff et Georges Didier Huberman, et sans moi donc, sans vous laisser sur une musique alors choisie par Georges Didier Huberman, mais qui pourrait faire jonction une fois encore, puisqu'il est question de plainte et d'eau, c'est-à-dire avec Bach, l'autre, Johann Christopher Bach. On écoute. Bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Georges Didier Huberman, c'est vous qui avez choisi cette musique. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, deux.
Il y avait le choix, hein, parce que, en fait, cette forme de la lamentation, de la plainte, c'est une forme essentiellement musicale. Hein, donc. Alors, ce qui me touche dans cette interprétation en particulier de Magdalena Kojena, c'est ce « ah » qui suspend le texte à dire. Il le rend nécessaire et il le suspend. Il y a la même chose chez Monteverdi, interprété préférentiellement par Cathy Berberian, où elle insiste aussi, Cathy Berberian, sur le moment du « ah, ah ». Et voilà, ça se suspend et ça annonce que le langage est aussi nécessaire qu'il doit être suspendu. Vous êtes d'accord ?
Oui, je trouve que c'est une définition du poème assez exacte. Vous disiez tout à l'heure ce que peut les images, pourquoi elles ont un tel pouvoir, ce que peut aussi la voix dans le langage, ce qu'elle peut encore. Hein. Et c'est pour ça que la démarche poétique est d'une certaine manière si singulière parmi les arts du langage, parce que elle est toujours entre l'articulation et la désarticulation, entre ce qu'on va pouvoir réussir à dire et ce qui noue la gorge.
Mais regardez, ce « ah » qu'on vient d'entendre de Magdalena Kojena, le « ah » de Monteverdi chanté par Berberian, nous renvoie à quelque chose qui se trouve très souvent au début des vers de la tragédie grecque. C'est « aïe, 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 aïe ». Voilà. Ajax, c'est l'homme qui dit aïe, c'est Ajax, c'est l'homme qui dit aïe, c'est-à-dire l'homme qui souffre. Et moi, je suis frappé, alors là, c'est peut-être une interprétation complètement anachronique, les historiens vont peut-être dire ça, mais moi qui aime beaucoup le chant flamenco, le chant flamenco, exactement comme une tragédie grecque, ça commence par aïe, aïe. Aïe, aïe. Voilà. Ça veut dire que c'est un opérateur de survivance. Pourquoi ça survit ? Parce que c'est tout petit. C'est faible, comme dit Hölderlin. La puissance de l'origine ne se manifeste que dans la faiblesse. Faiblesse.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Aujourd'hui, à la technique Delphine Baudet, à la préparation Thierry Beauchamp et à la réalisation François Connac. Vous trouverez toutes les actualités de Martin Rueff et Georges Didier Huberman sur le site de l'émission. À réécouter, podcaster, partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.